Céleste, Dieu trois fois saint, j'ai besoin de toute ton aide pour pouvoir faire cette étude. Accorde-moi, je t'en prie, que l'Esprit Saint puisse s'emparer de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mon être tout entier, de ma bouche, pour faire cette étude avec la profondeur des sentiments qui ne peuvent pas venir de moi, mais uniquement de toi, que des âmes puissent être atteintes par ce message pour fortifier leur cœur, pour les élever plus près de toi. Merci. Chers frères et sœurs et chers amis, cette étude est un peu particulière et étude particulière n'est pas toujours facile. Nous parlons de l'agneau et son flambeau. Vous pouvez noter die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Prenons aujourd'hui l'agneau comme flambeau, car dans sa lumière, nous voyons la lumière. Allons à son école, car la place que Dieu a donnée à ses saints est aux pieds, elle se trouve aux pieds de Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 33, verset 3. Les saints, ce sont des gens attachés et qui sont soumis à Dieu le Père. Et comme tel, allons donc à lui, apprenons de lui et marchons dans son chemin. Tout d'abord, l'agneau t'enseigne l'amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Notez Saint Jean chapitre 13, verset 1. Comment a-t-il aimé? Il a aimé les siens beaucoup plus que lui-même. En réalité, c'est cela, l'amour de Christ pour toi. C'est l'amour naturel. Et cet amour naturel n'oublie jamais. C'est pas la même chose. Car l'amour naturel aime selon son propre penchant, selon notre ou mon penchant. Or, le véritable amour ordonné par la loi aime parce que Dieu le veut. Il aime par devoir et il aime son prochain comme lui-même. Et là, vous pouvez noter Saint Luc, chapitre 10, verset 27. Je devrais peut-être redire cette phrase pour qu'elle ne soit pas mal comprise. Comment le Seigneur a-t-il aimé? Il a aimé les siens bien plus que lui-même. En réalité, c'est cela, l'amour de Christ. L'amour que Christ a démontré est donné pour toi. Or, nous savons bien que l'amour naturel qui vient de nous, un peu mélangé, aime selon notre propre penchant et souvent est ordonné par une loi uniquement humaine. Par rapport à tout cela. Ou peut-être on peut dire par contre, l'amour qui vient de Dieu le Père, cet amour-là aime surtout par un devoir profond, et par ce devoir profond nous donne la possibilité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Saint Luc, chapitre 10, verset 27. Et l'amour de Christ aime surtout les autres également, et bien plus que de s'aimer nous-mêmes. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. C'est seulement à son côté et à son école que nous pouvons apprendre l'amour véritable. Et là, nous apprenons à aimer divinement, à aimer avec l'amour qui est dans son cœur. Il n'y a aucun domaine où l'on branche autant que sur celui-ci. Le faux amour détériore beaucoup plus que la haine, parce que c'est faux. Parce que c'est, on veut le faire croire qu'on aime. Mais c'est pire que la haine. C'est comme il est dit, il vaut mieux être bouillant que froid ou tiède. On rend donc son visage, notre visage, un peu comme un caillou sans expression, non pas contre ses ennemis, mais contre ses amis, même contre nos amis. Ésaïe, chapitre 50. Et finalement, nos ennemis ne nous ont pas fait autant de tort que nos soi-disant chers amis. Car nos soi-disant chers amis, par derrière notre dos, nous font beaucoup plus de mal que nos ennemis. Si nous souhaitons que notre homme intérieur grandisse et croisse, alors il est nécessaire de nous examiner sans ménagement et d'entreprendre une épuration. Dans le chapitre de l'amour, il est écrit « L'amour se réjouit de la vérité ». Oui, l'amour et vérité. L'amour a l'éternité en vue pour son prochain, et c'est pour cela qu'il y fait allusion avec délicatesse, avec gravité, et si c'est nécessaire, avec violence. L'amour charnel est aveugle, mais l'amour divin a l'œil totalement ouvert pour la vérité. L'amour charnel aime pour être aimé en retour, c'est donnant-donnant. Or, l'amour authentique aime sans attendre de reconnaissance. Il ne pense pas à ce qui en résulte pour lui ou pour elle, mais à ce qui en découle pour le Seigneur. L'amour véritable ne cherche en Jésus-Christ que lui, et chez les hommes que leur âme immortelle, non pas leur estime, et encore beaucoup moins leur argent. L'amour consiste donc à s'abandonner complètement. Il aime jusqu'à la mort, et même lorsque on le mène à la croix, rappelez-vous, qu'on le mène à la croix avec son maître, eh bien, l'amour ne chancelle jamais. Or, l'amour charnel aime aussi, bien sûr, parfois même jusqu'à la mort, toutefois pas dans l'amour de Christ, non, mais dans la mort spirituelle, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. L'amour spirituel, c'est un homme ou une femme qui a l'apparence d'être vivant, mais si il n'y a pas l'esprit du Seigneur dans cette personne, spirituellement, cette personne est morte. Combien d'amitiés ont conduit dans la mort spirituelle, c'est-à-dire être comme des morts vivants. Et cela occasionne des blessures qui toute une vie ne guériront jamais. Par l'amour, on se disait tout. On discutait de tout ensemble. On ne pouvait vivre sans se voir chaque jour. Et voilà qu'après des années, cet amour brûlant s'est tout à coup transformé en haine amère. L'amour charnel dégénère toujours, tôt ou tard, en haine. Par amour charnel, nous n'entendons pas l'amour sensuel uniquement, mais le faux amour qui sévit parmi les croyants, ça existe. Dieu, dans sa grâce, permet alors qu'une averse de reproches amers et injustes, ainsi qu'un vent glacial et hostile, secoue cet édifice d'amour. À ce moment-là, l'édifice vermoulu va s'écrouler et la ruine est grande. On l'entend très loin à la ronde. Et là, là donc, où l'on cesse d'aimer divinement, débute tout simplement l'injustice, la confusion et la mort. Aimer divinement ne s'apprend que à l'école de l'agneau. L'amour et l'obéissance sont importants. Quand et comment puis-je aimer divinement? Ça, c'est la question brûlante pour beaucoup. Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 2, une réponse appropriée nous est donnée. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Celui qui aime Dieu aime les autres pour Dieu et non pas pour lui-même. Jean-Baptiste se réjouit quand ses disciples le quittèrent pour suivre Jésus-Christ. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il aimait Jésus-Christ de tout son cœur, beaucoup plus que ses intérêts personnels. Celui qui marche dans les commandements de Dieu, celui-là aime vraiment, car par son obéissance, il entraîne ses frères et sœurs sur les sentiers de Dieu. Et c'est cela, l'amour véritable. Et finalement, cet amour-là est victorieux et reconnu même s'il a été critiqué toute une vie. Chaque amitié qui n'est pas ancrée sur le fondement est inimitié, ça veut dire sans amour. De toute façon, cultiver l'amitié est une des choses parmi les plus difficiles. Je parle de l'amitié véritable. Là, il faut beaucoup de grâce et de vérité qui nous vient du Père. L'amour, c'est la vie. On ne peut vivre sans amour. Si notre esprit a été créé pour connaître notre cœur, lui, il est créé pour aimer. Notre cœur a été créé pour aimer comme l'oiseau pour voler. L'amour est le commencement et la fin de notre vie. L'amour est la lumière et la source de chaleur de notre vie. Celui et celle qui pêche contre l'amour nuit tout simplement à sa propre vie. L'amour est la plus grande puissance et nous vivons seulement aussi longtemps que nous aimons. L'amour est le lien de la perfection. L'amour embrasse tout, même Dieu. L'amour est le seul commandement que le Seigneur a donné aux siens. L'amour est la marque distinctive de la nouvelle naissance et est la preuve de l'authenticité de notre foi. L'amour est le fruit de l'esprit et l'équivalent de la présence personnelle de Jésus-Christ. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêt-toi de miséricorde et il te semblera porter des habits de fête, comme si tu portais des habits de fête, et à être abreuvé de vin de joie et être rafraîchi par la paix du ciel. Comme si, par exemple, tes pieds étaient des pieds de biche et tes bras, les bras de Samson. Le bon samaritain était-il un homme heureux ou malheureux? Qui des deux, ce soir-là, a ressenti le plus de fatigue? Le sacrificateur ou le bon samaritain? Lequel des deux était le plus heureux? Celui qui tira son denier ou celui qui le garda dans sa poche? Ô pauvre enfant de Dieu, qui est toujours en train d'attendre la force d'en haut et qui demandait une paix plus profonde et une joie plus excellente. Commencez par aimer, et vous commencerez à vivre. Les Corinthiens tenaient volontiers à être extraordinaires, et voilà que l'apôtre Paul leur montre le chemin le plus extraordinaire. Il se résume à peu près à ceci. L'amour supporte tout, il croit tout, il espère tout et il endure tout. Non pas certaines choses, mais absolument toutes. Qui pourrait dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire en cela? Et pourtant, à tous, l'occasion nous en est donnée. La foi est le début et l'amour est le but de la vie. Je répète, la foi, c'est le début et l'amour est le but de la vie. Les deux trouvent leur origine en Dieu et conduisent à Dieu. Dieu nous donne beaucoup d'occasions d'être heureux parce qu'il nous donne beaucoup d'occasions d'aimer. Tout ce qui impose des exigences à notre amour contribue à augmenter notre bonheur. Viens, allons à l'école de l'agneau et apprenons ce que est le véritable amour. Prenons-le aujourd'hui comme flambeau, lui qui aima jusqu'à la fin. L'amour conduit également à la souffrance. Hélas, Saint Jean, chapitre 13, verset 31. Car son amour, rappelez-vous, son amour l'a conduit jusqu'à la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi seul peut aimer celui qui peut souffrir. Aussi longtemps que nous attendons de la reconnaissance pour notre amour, nous n'aimons pas d'un cœur pur. Cela ne doit pas toujours être donnant-donnant. L'agneau t'enseigne également le service. Seul celui qui est conscient de sa noblesse est capable de servir. Lorsque Jésus-Christ a su qu'il était sorti de Dieu et qu'il retournait à Dieu, il a pris un linge pour laver les pieds à ses disciples. Par ce geste, il a empreint chaque service d'une noblesse divine. Le premier paragraphe de son programme de vie s'appelle « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir ». C'est lui qui est né de lui, possède sa pensée, et celui qui désire parvenir à son côté suit son chemin. Le service s'apprend uniquement à l'école de l'agneau, car seul celui qui est humble peut vraiment servir. Les anciens exprimaient l'humilité par courage de servir. Pourquoi nous sommes-nous convertis? C'est pour servir, nous dit saint Paul dans la première épître, dans 1 Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 1, verset 9. Pourquoi as-tu des talents? Mais c'est pour servir. Généralement, ce sont les plus doués d'une église qui présentent les plus grandes exigences, tout en oubliant leurs propres devoirs. Pourquoi tes ressources? Eh bien, c'est pour mieux servir. Oh, si tous les convertis savaient cela, alors tout le dénuement des pauvres missions prendrait fin d'un seul coup. La Sainte Bible nous présente Jésus-Christ particulièrement sous deux traits fondamentaux, comme serviteur et comme agneau, c'est-à-dire dans le service et dans l'endurance. Voici mon serviteur. Ceci est le nom préféré que Dieu le Père lui a donné dans l'Ancien Testament. Il nous sert par ses paroles. Tu as les paroles, disait saint Pierre. Il pouvait réconforter ceux qui étaient fatigués. Il pouvait consoler les affligés, effrayer aussi ceux qui étaient trop sûrs d'eux-mêmes, punir les hypocrites, enseigner les ignorants. Il avait les paroles de vie éternelle. Chers frères et chères sœurs, quelles sont tes paroles? Es-tu en mesure, après chaque conversion, de lever comme lui tes yeux vers le ciel et dire « Père, Père, scelle ce que je viens de dire et mets-le dans les sillons des cœurs, laisse-le lever et porter du fruit. » Ou dois-tu dire « Pardonne, ouvre et extirpe. Quelles sont tes paroles à toi? Ont-elles pour effet de tuer ou de vivifier? Aucune de tes paroles n'est prononcée dans le vent, car tôt ou tard, elle se développera chez toi ou chez les autres. Marie s'est entretenue avec Aaron de son frère Moïse, et ensuite, ils l'ont accusé. Oui, ils l'accusèrent. Ils l'ont même calomnié. D'abord, on parle de son prochain, et puis ensuite, on parle contre lui. Marie a mis du poison dans l'âme d'Aaron et l'a aidé à pécher. Eh bien, voyez-vous, cette maladie du bavardage, ce feu dévorant, voilà la peste dont le peuple de Dieu souffre le plus aujourd'hui. Quand tu parles avec ton frère, avec ta sœur contre d'autres, tu verses dans son âme un poison dont il ou elle ne peut plus se défaire. Ton silence, ton témoignage contribue-t-il à découvrir et à anéantir les péchés des autres? Aides-tu au salut de tes frères et sœurs? Ou au contraire, tes paroles éveillent-elles et alimentent-elles les péchés et les passions des autres? Pratiques-tu aussi ce colportage diabolique? Oui, plusieurs ne peuvent tenir leur langue en bride. Et Dieu, n'ayant pas de corde pour les lier, il leur impose un fardeau. Ces fardeaux divins oppressent, on les ressent. Marie, elle a contracté la lèpre. Dieu nous démontre ainsi, de manière remarquable, qu'il compare la médisance à une maladie dégoûtante et puante. Là, gît donc, demeure donc le secret, le pourquoi de tant d'enfants de Dieu ayant une vie chrétienne maladive et morte, ils sont comparables à des morts. Je ne parle pas quand vous devenez un vieillard comme moi. On sait bien que la carcasse se dégrade. Personne n'est ignorant de cela. Mais tant que j'étais jeune et que vous êtes jeune, jusqu'environ à 65 ans, eh bien, il n'y a pas de raison que vous soyez chétif et moribond. Hélas, le poison de l'esprit de bavardage et de critique les a tous tués. Ils ne peuvent assez mesurer combien ils s'avilissent avec les souillures des autres, n'ayant pas appris à se conduire saintement à leur égard. Mais nous apprenons ceci quand nous allons à l'école de celui qui dit à Judas: mon ami, mon ami, et qui ramasse et qui guérit l'oreille de Malchus, de Malchus, après que l'apôtre Pierre, comme nous le savons, lui a coupé l'oreille. Hein? Eh bien, le Seigneur nous a servi uniquement par sa vie sainte. L'héritage qu'il a laissé à ses disciples, cela réside en donner l'exemple, selon Saint Jean, chapitre 13. les apôtres et la multitude des martyrs ne seraient pas morts pour l'Évangile si leur Seigneur n'avait pas donné sa vie en exemple. Personne n'aurait accepté des souffrances pour l'Évangile si le Seigneur lui-même n'avait supporté les plus grandes souffrances à la croix où il a porté tous nos péchés. Qu'est-ce qui a enlevé de nos jours la splendeur et l'attrait du christianisme? Certainement, le peu de différence qu'il y a souvent entre un enfant du monde et un enfant de Dieu dans l'amour, dans la patience et le renoncement à soi-même. La vie est la lumière des hommes, non pas uniquement les paroles. C'est la vie que nous démontrons aux autres qui est la lumière, la véritable. Nos actes donnent vie à nos paroles. Et quelques-unes parlent seulement de lumière, mais d'autres, par contre, répandent la lumière. C'est pas tout à fait pareil. C'est le bon exemple qui prodigue à notre vie une autorité. Saint Paul n'a jamais parlé avec plus d'autorité que lorsque il pouvait dire « Soyez mes imitateurs, soyez comme moi ». Dieu emploie principalement deux moyens pour conduire les hommes à la lumière. Ce sont sa parole sainte et les personnes sanctifiées qui sont capables de représenter sa parole sainte. Quand la parole devient chair, c'est-à-dire prend corps, la gloire se manifeste. Saint Jean chapitre 1, verset 14. Dans notre chrétienté, presque chaque maison possède plus ou moins, serait-ce qu'une partie, de la sainte parole de Dieu. Cette sainte parole se trouve malheureusement parfois cachée, oubliée au grenier ou peut-être dans un tiroir plein de poussière. Mais à beaucoup d'endroits, elle est donc, en quelque sorte, une parole morte, jusqu'au moment où un homme, une femme sanctifiée va survenir. Alors là, la parole de Dieu devient esprit et vie. Saint Paul oublia peut-être les paroles de dispute qu'il a eues un certain moment avec Étienne à l'école des Juifs grecs. Mais son visage rayonnant était quelque chose d'extraordinaire à sa mort. La mort d'Étienne, je dis bien, avec laquelle il a remis sa vie aux pieds de son maître et l'intercession pour ses ennemis restèrent certainement gravés dans son âme et s'avérèrent comme une puissance divine, victorieuse lors des persécutions que plus tard il a dû terriblement subir lui-même. L'agneau t'apprend également à porter. Oui, Jésus-Christ, il a porté. C'est ce que nous lisons souvent, et le plus souvent encore, nous le voyons. Quand nous disons par exemple « porter », nous n'évoquons pas le moment où, comme agneau expiatoire, ce moment-là où il a pris sur lui tous les péchés du monde pour les porter à la croix. Mais nous voyons là autre chose. Il a porté avec endurance, a tout supporté dans sa vie quotidienne. Il a donné l'exemple. Il était exemplaire. Selon son propre témoignage, sa puissance, elle résida en ce qu'il a eu la force de donner sa vie. Saint Jean, chapitre 10, verset 17. Et non pas en ce qu'il parla, parce qu'il a parlé comme aucun homme n'avait jamais parlé, c'est vrai. Tout le monde l'a reconnu. Ou qu'il a nourri, par exemple, 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ou qu'il a eu le pouvoir de ressusciter des morts. Pourtant, voyez-vous, pourtant, quelle puissance cela représentait. Mais sa véritable puissance était dans le pouvoir de donner sa vie. Non seulement la croix, mais son existence entière a été un continuel don de sa vie. Déjà dans les difficultés journalières, il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Il a acquis ainsi la maturité pour accomplir le grand sacrifice sur la croix. Rejeté par son peuple, incompris de ses disciples, tenu pour hors de sens par les membres de sa famille même, déclaré séducteur par les dirigeants du peuple. Supporter tout cela, croyez-moi, cela nécessita une très grande force. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et voilà pourquoi il dit dans Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 3, verset 12, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » À quoi est destinée une colonne? Non pas à être une simple décoration, mais pour porter une lourde charge. Les personnes désirant être admirées ne sont pas des colonnes. Elles s'écroulent aussitôt qu'un fardeau leur est imposé, sitôt qu'ils ont un peu de travail devant eux, qu'il semble que ça les dépasse, ils s'effondrent. Les personnes susceptibles, oh là là, ne sont pas des colonnes non plus, car être trop susceptible est exactement le contraire de supporter. Très souvent, lorsque je me trouve sur le quai d'une gare et que je regarde les wagons du train, mon regard tombe parfois sur l'endroit indiquant le tonnage du wagon. Je me pose habituellement la grave question. Et toi? Toi, oui. Quel poids supportes-tu? Nous avons besoin de gens possédant la faculté de supporter, et ils sont nécessaires particulièrement dans les églises chrétiennes afin que l'esprit de susceptibilité et de division puisse être brisé. Il faut beaucoup plus de force pour supporter dans la maison de Dieu que au restaurant, évidemment. Au restaurant, on peut s'en aller quand on veut, et quand cela ne nous plaît plus, et on peut donc ainsi laisser s'effondrer ce qui veut s'écrouler, mais pas du tout. C'est pas ainsi dans la maison de Dieu. Car là, il s'agit de tenir le coup. Demeurer sous le fardeau, comme la colonne sous la charge, c'est-à-dire de garder patience. Un homme moyennement bon sur cette terre, il peut ou elle peut, par des méchants, devenir meilleur. Un homme ou une femme, je voulais dire par là. Donc un homme ou une femme moyennement bon sur cette terre peut parfois, par ceux qui sont pas trop gentils, hein, qui nous disent du mal derrière notre dos, devenir meilleur. Comment Jésus-Christ a-t-il vaincu tout cela? Mais pas autrement que en tant qu'agneau véritable. Qu'est-ce qui caractérise l'agneau? Il est écrit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il porta tous ceux qui suivent l'agneau et qui ont la force de supporter. Et là où cette force manque, bien entendu, là va manquer aussi le Saint-Esprit. Le rocher se laisse frapper et va donner de l'eau vive. Et lorsque on frappe le rocher qui représente Jésus-Christ, on le frappe jusqu'à la mort, et alors là a coulé de lui un pur amour d'une vie absolument pure. Qu'est-ce qui s'écoule lorsque on nous frappe? L'eau de la vie ou Mara, l'eau amère? Lorsque Étienne, rappelez-vous, a été lapidé, c'était terrible. Et il a été lapidé par le peuple. Et là, avant de mourir, il s'est écrié avec un visage, paraît-il totalement transfiguré, tourné vers le ciel. Il a crié, avant de sombrer dans la mort, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et lorsque saint Paul a été expulsé par son peuple, il a pu dire, car je voudrais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères et sœurs selon la chair. Romains, chapitre 9, verset 3. Voilà ce que signifie supporter. Voilà le christianisme véritable. Voilà la grâce qui est mise en pratique. La Sainte Bible parle non seulement d'une grâce qui pardonne, d'une grâce qui prévient, d'une grâce qui rétablit, etc., mais aussi d'une grâce agissante. Demandons un peu à l'apôtre Pierre ce que est la grâce. Il va nous répondre, car c'est une grâce que de supporter des afflictions. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 19 à 21. Les deux épîtres de Pierre traitent avant tout de la grâce agissante. Questionner par exemple le contrôleur d'un train qui se hâte le long du TGV. Pourquoi croyez-vous qu'il frappe chaque roue avec son marteau? Pourquoi frappez-vous la roue? Eh bien, c'est pour voir si elle est bonne. Ça, c'est la réponse. Et à quoi reconnaissez-vous qu'elle est bonne? c'est lorsque le son est plein et paisible. Donc, se laisser frapper et de pouvoir rester calme, ça, c'est réussir l'épreuve. C'est annoncer la merveilleuse lumière de l'Évangile au monde et c'est lui montrer le Maître. Un prédicateur ayant subi un grand tort disait un jour, très énervé, à sa femme, « Eh bien, je veux lui montrer à celui-là qui est le maître, car c'était un homme grand et puissant. » Alors, sa chère épouse, elle lui a dit, « Mais de quel maître tu parles ?» Et elle a demandé cela d'une voix très douce. Alors le prédicateur, effrayé, a dit tout confus, « Oh oui, cette fois, je ne lui aurais pas montré le maître, oh non, mais je lui aurais montré moi-même. Merci chérie de m'avoir montré la vérité de cette question. » Expliquer son point de vue aux autres, comme on a coutume de dire, peut seulement être utile lorsque ce point de vue suit en quelque sorte les traces de l'agneau. Suivre les traces de l'agneau, son amour et son humilité. Oui, l'agneau t'enseigne l'humilité. « Je suis humble de cœur, a dit Jésus-Christ, apprenez de moi. » Notre orgueil, nous l'avions d'un autre, oh là là. Nous devons aussi recevoir notre humilité d'un autre. Rien n'est plus étranger et incompréhensible à notre nature humaine que l'humilité. C'est l'humilité que nous possédons le moins par notre nature. Nous avons tous besoin de répéter toujours à nouveau la prière de Zeller, qui était un grand homme de langue allemande, un homme de Dieu. Je voulais dire par là, pardonnez-moi, un homme de Dieu. Il a dit, « De toi, nous voulons apprendre, la douceur de ta clémence. Nous aimons être identiques à l'image de ton humilité, à ta tranquille activité, à ton grand abaissement et à la douceur de tes bienfaits. La preuve la plus sûre que nous possédons l'humilité, elle est donnée lorsque nous ne fuyons plus les humiliations. Quand nous pouvons remercier, au contraire donc, remercier pour celle-ci, c'est pas facile. Et lorsque nous nous complaisons dans ces humiliations, car la parole de saint Paul, elle dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Cela signifie aussi « Je trouve mon plaisir dans tout ce qui m'humilie. » Ça, c'est la véritable grandeur. J'ai encore, malgré mon grand âge, à beaucoup apprendre de saint Paul. Le moment m'est encore présent où j'ai remercié pour la première fois pour des humiliations infligées par des hommes. Car autrefois, je les acceptais simplement et j'essayais péniblement de les supporter. puisqu'il n'y avait évidemment rien d'autre à faire. Et saint Paul, par contre, se complaisait dans tout ce qui l'humiliait. Il nous montre l'exemple. Et saint Pierre dit, Dieu fait grâce aux humbles. Donc, chaque fois que nous évitons une humiliation, nous évitons une grâce. Combien de grâces avons-nous ainsi totalement perdues? Moi, j'en ai perdu beaucoup. Saint Pierre dit plus loin, revêtez-vous d'humilité. L'humilité est le manteau qui nous protège des refroidissements. Chers amis, qu'est-ce que l'humilité? Hein? Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité n'est pas forcément une vertu, mais c'est le terrain sur lequel toutes les autres vertus prospèrent. Aucune vertu ne subsiste si elle n'a cru, donc grandi, dans ce terrain-là. Et c'est pourquoi Jésus-Christ enseigne à tous ceux qui viennent à lui de apprendre de lui, avant tout, l'humilité. L'humilité est la force permettant d'être au service de tous. C'est la véritable force. C'est pas nos muscles. C'est cette humilité-là qui est la véritable force et qui va permettre d'être au service des autres. Saint Jean, chapitre 13. L'humilité est la puissance pour se renier soi-même. Oui, il s'est humilié lui-même. C'est ce que vous pouvez lire dans Philippiens chapitre 2. L'humilité nous conduit à l'anéantissement de nous-mêmes, à n'être rien, absolument rien, afin que Dieu soit tout. L'humilité est la force qui ne cherche point l'honneur personnel et ne l'accepte même pas lorsque il lui est offert. Elle refuse l'honneur, comme ce missionnaire anglais bien connu, qui, après un discours élogieux de son évêque, a en son honneur, car il allait prendre sa retraite. Et donc, il n'a pas répondu devant cette grande assemblée réunie dans cette cathédrale avec éloquence. Non, non, non. Il a répondu que par ce petit verset. Regarde donc, me voici pauvre, ayant mérité le courroux. Accorde au toi qui a compassion de moi, de contempler ta grâce. C'est tout ce qu'il a dit. L'humilité est la force qui tend, en quelque sorte, à minimiser ses actions au lieu de les amplifier, afin de n'attirer ni l'attention ni la curiosité. Pourquoi Jésus-Christ dit-il lors de la résurrection de la fille de Jaïrus? Elle n'est pas morte, a-t-il dit. Elle dort simplement. Ce qui n'était pas tout à fait vrai. Il ne voulait pas, voyez-vous, grossir son acte extraordinaire, car c'est quand même pas courant de ressusciter quelqu'un. Il ne désirait pas se faire remarquer. Alors il a dit simplement, ne soyez pas inquiets, elle dort simplement. En règle générale, nous présentons l'affaire aussi noire que possible afin qu'elle puisse paraître d'autant plus blanche ensuite, ou vraiment petite pour qu'elle puisse paraître d'autant plus importante. L'humilité ne connaît rien d'elle-même. Elle ne sait pas qu'elle est humble. L'humilité est la force qui ne peut rien d'elle-même, qui peut se soumettre et être dépendante. « Je ne peux rien de moi-même », nous dit Jésus-Christ à plusieurs reprises. « C'est le Père. Lui, il est plus grand que tout. » C'est ce qu'il a dit dans Saint Jean au chapitre 10. Et dans Die Offenbarung, c'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il montre ainsi sa dépendance du Père, de Dieu le Père. Et cela même après avoir été élevé à la droite de la majesté divine et avoir reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre par ses paroles. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Pour terminer notre étude, disons que la plus grande humilité nous est montrée par la Trinité de Dieu lui-même. Le Père et le Fils préparèrent le royaume de l'Esprit Saint dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'Esprit Saint et l'épouse nous disent « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Il fraye en quelque sorte le chemin au royaume du Fils, c'est-à-dire le règne de 1000 ans que nous appelons le millénium, qui est à la porte. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez en être sûr, il vient de tomber, paraît-il, à un certain endroit de France, aujourd'hui, des grêlons gros comme des œufs, qui ont tout cassé. On pourrait même en mourir. Ça, c'est démontré dans Révélation. Et encore, chers amis, le Fils, l'Esprit Saint, et l'épouse aplanissent la voie au royaume du Père. Donc, Jésus-Christ et le Saint-Esprit aplanissent la voie au royaume du Père. Et là où Dieu sera tout en tous, et où il sera le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre, de qui elle va tirer son nom, selon Éphésiens chapitre 3, verset 15. Voilà pourquoi nous n'apprenons que par le Christ du Dieu le Père révélé. Et là, nous apprenons ce qu'est la véritable humilité. Et nous ne devenons humbles que par Christ habitant en nous, par l'Esprit Saint, par lequel nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, car cet amour enraciné et fondé, c'est précisément l'humilité. Ainsi il est dit de Jésus-Christ, comme il a aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. L'humilité est la force qui permet à tous ceux qui la possèdent de traiter en frères et sœurs tous ceux qui leur sont de beaucoup inférieurs. Il n'a pas honte d'appeler frères ses disciples qui se sont enfuis, rappelez-vous, à l'heure tragique. Et même, ils l'ont renié comme l'apôtre Pierre. L'humilité est la force qui permet de supporter les autres. Se considérant elle-même comme la plus petite, elle ne désespère pas pour les autres. Voilà pourquoi elle est la beauté de l'agneau de Dieu. On n'en recherche pas une autre. L'humilité est cette puissance qui peut témoigner une bienveillance particulière à celui qui l'a offensé, comme le ressuscité quand il a dit « Allez dire à mes frères et à Pierre que je vis ». On n'humilie pas les autres en se retirant d'eux. Ça, c'est trop simple. Mais en les aimant et en les poursuivant comme Jésus-Christ l'a fait pour l'apôtre Pierre, selon Saint Jean chapitre 21, pour leur ouvrir ainsi un chemin leur permettant de s'humilier par la suite eux-mêmes. Chers amis, nous allons terminer notre étude par une simple prière. Seigneur, inspire-moi par le Saint-Esprit. Guide-moi pour cette prière. Chers frères et sœurs, prions donc maintenant. Seigneur, toi qui as été humble de cœur, ne permets pas que nous nous approchions de toi avec une orgueilleuse présomption et dans un sentiment de satisfaction de nous-mêmes, mais donne-nous une véritable humilité en nous faisant comprendre combien nous sommes coupables devant toi. Nous savons que celui qui s'élève sera abaissé, et les déclarations de la Sainte Parole divine ne nous permettent pas de conserver d'illusions à cet égard. Et cependant, sans cesse, nous nous élevons devant toi, grand Dieu, devant les hommes, et bien plus encore en nous-mêmes. L'humilité est la compagne inséparable d'une véritable sainteté. Elle ne se manifeste pas seulement aux yeux du monde par des actes et des paroles, mais elle agit dans les profondeurs de l'âme, tellement qu'il ne peut plus s'y trouver de vaine confiance en soi, d'orgueil et de bonne opinion de ses propres pensées, de ses vertus. Celui qui est humble de cœur et qui marche dans l'humilité aura toujours de l'indulgence pour autrui, de la douceur, de la patience, comme son divin modèle. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, il ne brisera point le roseau froissé, il n'aspirera point aux choses relevées, il ne présumera pas de soi-même, il sera bon envers les autres, plein de compassion, pardonnant comme Dieu lui-même a aussi pardonné par Christ. Pouvons-nous reconnaître en nous ces caractères de l'humilité chrétienne? Ne sommes-nous pas forcés d'avouer au contraire que notre conduite révèle des dispositions entièrement opposées? Seigneur, aie pitié de nous et donne-nous par ta grâce un sentiment de plus en plus vif de notre état de misère spirituelle et de condamnation devant toi, afin que l'humilité naisse en nous. Que notre amour pour Christ notre Sauveur, puisse accroître encore cette humilité, sachant que nous avons été sauvés par grâce, et que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu de miséricorde, daigne exaucer notre prière et nous donner de t'offrir avec l'humilité du pauvre péager et non avec l'orgueil du pharisien de ton évangile, et cela en ton saint nom. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et cela était un peu exceptionnel. J'ai reçu cela pour vous, par l'Esprit Saint, à vous le transmettre cet après-midi. Donc, c'est la deuxième étude d'aujourd'hui, mais c'est évidemment très rare, car je ne peux pas faire une chose pareille par moi-même. Et ça a été voulu pour vous transmettre quelque chose d'exceptionnel. À bientôt, Dieu voulant, à demain matin, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers frères et sœurs.